putain les gars, Transformers est sorti il y a plus de 18 ans. Dans moins de 2 ans, en juillet 2027, ça fera 20 ans qu'il est sorti. Je peux pas le croire, je refuse de le croire. Tiens, vous voulez d'autres films comme ça qui ont 20 ans? Star Wars épisode 3, ça a 20 ans. Alexandre, Million Dollar Baby, Kingdom of Heaven, Sin City, La Guerre des Mondes, tous ces films ont 20 ans. Ah, ça fout un petit peu les boules, ouais. Et certains d'entre eux n'ont pas pris trop de rides, et je crois pouvoir dire que c'est le cas du film dont on va donc parler aujourd'hui. Transformers de Michael Bay. America fuck yeah! C'est la guerre de partout, ça pète dans tous les sens, c'est Tarp NBA, conte de la bonne mère. Accrochez-vous, ça va secouer. Civis pacem parabellum, qui veut la paix prépare la guerre. Transformers, sorti en 2007. Michael Bay réalise le film juste après The Island, dont j'ai parlé il y a un mois sur la chaîne. Vous avez vu la vidéo? Est-ce que vous avez vu la vidéo?
Bien sûr que non.
Ah bah super, merci beaucoup. Eh bah allez la voir, c'est la meilleure de la chaîne. Et en plus, je mets plein de photos de Scarlett Johansson totalement nue. En exclusivité sur 12 par sec, vous ne verrez pas ça ailleurs. Transformers, premier film d'une franchise très 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 lucrative, puisqu'il y a eu 7 films plus un film d'animation sorti l'année dernière. En tout, la saga a rapporté plus de 5,3 milliards de dollars. C'est une des franchises les plus lucratives de toute l'histoire du cinéma, avec Joséphine Ange Gardien.
C'est jamais sorti au cinéma ce truc là?
Non mais y a Disney, ils sont en train de préparer une adaptation là. C'est Victor Wembanyama qui va jouer le rôle. Michael Bay a réalisé 5 des 7 Transformers, les 5 premiers, et clairement, c'est quand même pas ses meilleures réalisations.
C'est nul!
Bon, c'est nul, faut pas exagérer. Enfin, pour moi si, il y en a quand même un en particulier qui est vraiment nul à yesh, c'est le 2. Alors là, je vais vous dire, c'est l'une des très très rares fois où j'ai failli me barrer de la séance de ciné. Je n'avais marre. C'est pas arrivé beaucoup de fois, mais il y a eu Transformers 2, il y a eu toutes les vidéos qui ont été projetées au cinéma de la séance de Marty, et il y a eu aussi le film de Nexus 6, là... Hey, je suis content de ma vanne. Non, je déconne, évidemment, en plus, il défonce leur film. Il est mieux que Transformers 2. Michael Bay lui-même dit que le film est nul parce qu'ils ont pas eu beaucoup de temps pour l'écrire. Une excuse de merde, un peu, quand même. Si, c'est une excuse de merde. Quand tu fais un film à 200 millions, tu prends le temps de l'écrire.
Connard!
On retrouve Shia LaBeouf, hein, qui est pas ouf dans ce film. Hein. Oh, je m'excuse, il est quand même pas mal relou. Hein. Je le préfère nettement dans d'autres films, notamment dans Fury, avec Brad Pitt, que j'adore. Shia LaBeouf, il joue dans les 3 premiers Transformers. Ensuite, c'est Mark Wahlberg pour le 4 et le 5. Ensuite, c'est la sublime Hayley Steinfeld, qui joue dans Bumblebee. Celle qui a donné sa voix à la non moins sublime Vaille dans Arcane. Et pour le dernier, on s'en fout. Alors, par contre, on s'en fout pas du tout de Megan Fox, qui est vraiment mignonne. Hein. On va dire qu'elle est vraiment... Et elle aussi, elle va quitter rapidement la franchise, puisqu'elle sera remplacée dès le 3 par Rosie Huntington-Whiteley, qui est encore plus ultra... Et puis après, je sais plus non plus. En fait, Megan Fox s'est fait virer de la production parce que s'est engueulée sur le tournage avec Michael Bay parce qu'elle disait qu'il était trop tyrannique. Elle l'avait même surnommé le Hitler des plateaux. Hein. Et l'autre, bah forcément, il avait pris la douche.
La mouche.
La mouche. En même temps, c'est vrai que ça fait pas forcément plaisir quand on te compare à Hitler, quoi. Après, en même temps...
Non.
Voilà, pas grand-chose d'autre à dire sur la production du film, si ce n'est que Michael Bay, au départ, voulait pas réaliser le film parce qu'il trouvait que c'était trop enfantin. C'est pour ça qu'il a rajouté beaucoup de scènes avec des militaires, hein, pour qu'il y ait un côté beaucoup plus sérieux. C'est Steven Spielberg qui produit, et c'est lui qui a l'idée d'écrire le film, non pas du point de vue des Transformers, mais du point de vue des humains. Concept hyper original. Et puis c'est tout, hein, voilà, on peut lancer le film.
Hein, déjà?
Bah non, mais il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Hein. Comme d'habitude, vous trouverez sur YouTube plein de vidéos qui parlent déjà du making-of, le côté pub, vente de jouets, tout ça. Non, à la limite, le truc cool que j'avais vraiment grave kiffé à l'époque, c'était le tout premier teaser qui était sorti plusieurs mois avant, mais vraiment longtemps avant le film, et qui montrait une petite scène qu'on ne verrait pas plus tard dans le film. Sauf que ça, évidemment, on ne savait pas à l'époque. On voit un rover martien, enfin, il y a un rover qu'on a envoyé sur Mars, et on nous dit que la NASA a dit qu'il s'était écrasé, et que sa dernière mission a été classée top secret. Et ensuite, on voit ça. Et voilà. Alors, déjà, ça, j'ai plutôt kiffé. Le côté extraterrestre caché sur Mars, tu vois, ça ajoute beaucoup de mystère. Et surtout, après coup, j'aime bien l'idée que ce qu'on voit là-dedans ne sera pas dans le film. Et justement, en plus, ils y font référence. Et même si c'est très court, évidemment, bah, je trouve que ça ajoute un petit peu au lore du film, quoi, à l'univers du film. Quoi. Ouais, ça ajoute 1 minute 30, quoi. Allez, on lance le film. Allez, c'est parti, on voit des robots qui envahissent la Terre. Il y en a partout, là. Attention, les gens se cachent dans les sous-sols, c'est hyper dangereux. Les effets spéciaux sont super bien fait.
Ah mais là, c'est pas le bon film, hein.
Bah si, c'est Transformers.
Non, ça, c'est Transmorphers.
Trans quoi?
C'est le contraire, t'inverses le M et le F.
Tu veux dire le masculin et le féminin?
Pourquoi ?
Bah, trans.
Non, ça n'a rien à voir, là.
Blague à part, est-ce que vous connaissez le film Transmorphers ? C'est un vrai film, hein. C'est un vrai film de merde. Vous déconnez, non, mais regardez, même les robots, ils sont gênés d'être là, quoi. Ça, c'est le genre de truc que ta grand-mère, elle t'offre en cadeau à Noël et elle pense qu'elle a bien fait, quoi. Ah, les vieux, c'est terrible. Y a combien sur l'héritage, déjà ? Sérieux, mais le nombre de gamins qui ont regardé ça et qui ont cru que c'était le vrai Transformers. Transmorphers, réalisé par Michael Kay. Alors, ce qui est mortel avec Transformers, c'est le sound design. Ils ont gagné un Oscar pour ça. On le reconnaît direct. Dès que le logo part, là, il y a ces espèces de bruits robotiques, là, je trouve ça absolument mortel. C'est vraiment des purs bruits que j'essaye de, même de remettre dans les...
Avant le commencement des temps, il y avait le cube.
Ouïaï. Ok, alors là, ça part bien, là. Moi, je me rappelle au cinéma, quand j'ai pas bien entendu la première phrase, je pensais trop qu'il avait dit...
Avant le commencement des temps, il y avait... Le cube.
Et là, t'as un énorme cul qui flotte dans l'espace. Alors là, il y a une grosse voix qui nous explique que ce gros cube peut créer des mondes et des planètes, et que c'est comme ça que les robots ont été créés. Mais un jour ou l'autre, il a fallu qu'il y ait la guerre. On le sait bien, on n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire.
On dit c'est le destin,
et oui. Et le cube fut perdu. Je sais pas comment tu peux perdre un truc comme ça, mais le truc est juste gros comme une planète, quoi. T'imagines, on te dit, on a perdu Mars. On sait pas où il est parti. Bah, elle était là, et puis pouf, elle a disparu, on la voit plus. Et il a atterri sur Terre, on ne sait pas trop comment. Hein. C'est pas précisé. Il n'y a pas trop de précision non plus pour le moment. J'espère qu'ils vont nous donner quand même un peu plus d'informations au fur et à mesure du film.
Non.
Et on découvre des gros hélicoptères de combat bien vénères avec à l'intérieur des soldats qui ont hâte de rentrer chez eux. Parce que ces soldats, c'est pas que ce sont des surhommes. Ce sont a fortiori des hommes comme les autres. Ce sont des hommes avant tout. Et surtout, dans les films de Michael Bay, aucun cliché ne sera toléré.
J'ai surtout hâte d'embrasser ma fille que je connais pas encore.
Même ses potes, ils se foutent de sa gueule.
Oh, que bonito, que c'est mignon.
Ah, sérieux, mais dès le début, quoi. Comment j'espère trop qu'il va mourir, lui. De toute façon, ces soldats-là qu'on va voir tout au long du film, vous allez voir que ça va être un arc narratif dont on ne va avoir absolument rien à foutre. D'ailleurs, je vais même pas en parler dans ma vidéo. Michael Bay tenait absolument à les avoir, et moi, j'ai même pas les mythes. Et là, il y a un hélicoptère qui s'approche de la base, mais le problème, c'est qu'il n'est pas identifié.
Colonel Sharp.
Colonel Sharp. Comme dans Armageddon.
Bonjour messieurs, je suis le colonel Sharp.
Ah d'accord, Michael Bay se fait même pas chier à chercher des nouveaux noms de personnages, il reprend juste les anciens de ses autres films. Ah, il s'emmerde pas. Hein. De toute façon, Michael Bay, c'est un mec qui passe son temps à faire des références à ses propres films dans ses autres films. Le mec se kiffe, quoi. Ou alors, peut-être qu'aux États-Unis, tous les colonels s'appellent colonel Sharp. C'est possible aussi. Ils envoient deux avions Raptor pour l'intercepter, les mecs communiquent l'immatriculation, et là c'est chelou parce que ça renvoie à un hélicoptère qui s'est fait abattre 3 mois avant.
Il y a forcément une erreur, contrôlée et recontrôlée.
C'est fait, monsieur. J'avais un ami dans cet hélicoptère.
Comme par hasard. Putain, mais hé, ça va aller, oui. Vous essayez de faire quoi, là, de nous tirer des larmes? Vous voulez qu'on vous plaigne parce que l'armée, c'est dangereux? Bah, vous aviez qu'à pas vous engager, les gars. Si vous voulez qu'on vous dise, on a rien demandé, nous. Hein. Ah non, mais direct, je m'énerve, mais c'est parce que ça m'énerve. L'hélicoptère se pose sur le tarmac, il fait quasiment nuit. Il y a 30 secondes, il faisait grand jour. Mais le truc, c'est que si vous voulez, pour faire des effets spéciaux crédibles, c'est toujours un peu plus pratique quand il fait nuit. Bah, il y a moins de lumière, donc si tu veux, il y a moins besoin d'avoir vraiment beaucoup de détails, quoi. Et encore, on a de la chance, là, ils ont pas mis de pluie. Ah bah, la pluie, c'est parfait pour les effets spéciaux. Bah, crois-moi que le mec, ça les arrange, hein. Y a besoin encore moins de détails. Combien t'as de films avec des créatures de ouf ou alors je sais pas n'importe quoi avec n'importe quel truc à animer, mais c'est toujours de nuit et il flotte à mort. Je me rappelle par exemple de Godzilla en 97, tout le film se passe de nuit et sous la flotte. Eh oui, non mais c'est ce qu'on appelle couramment de la triche. Hein. En fait, les mecs des effets spéciaux, c'est tous des enfoirés. Hein. Bon, alors l'hélico, il fait quoi là? Oh putain, j'en veux un. Non, non, là les gars. Là, ça défonce. Vous avez vu le truc de ouf? Non, mais attends, mais c'est hyper classe un Transformers en fait. D'ailleurs, là, il triche aussi sur l'animation parce que, évidemment, la transformation, elle est partiellement cachée par les tanks, tu vois. Hey, et du coup, il y a un peu moins de boulot à faire. D'ailleurs, ils le refont dans Transformers 2 quand Optimus il se transforme, là. Ils te mettent des échafaudages partout devant, les petits salopères. Mais ça, c'est un procédé qu'ils utilisaient tout le temps aussi, hein. Dans la guerre des mondes, pourquoi vous croyez qu'il y a un énorme pont en plein milieu devant les nuages dans le ciel? Ah, mais comme ça, il y a moins de trucs à animer. Sacré Spielberg.
Pensais que ça se verrait pas, mais ça se voit.
Et là, attention, truc de ouf. L'hélicoptère s'est transformé en robot et se met à défoncer toute la base. La scène est dingue et des explosions partout. Ça, ce qui est dingue, c'est que ça pourrait être limite, tu sais, la scène d'action de fin d'un film d'action, je sais pas, on va dire moyen. Mais là, non, chez Michael Bay, ça, c'est la scène d'intro. Ah, il déconne pas, le Michel. Et là, le robot se met à choper des informations classées secret défense. Il y a plein de trucs top secrets qu'il faut que personne découvre.
Attends, pause. Reviens en arrière,
la visite.
Mais quoi? J'ai vu un
truc. Non, remets pas en arrière, hein, ça sert à rien.
C'est quoi ça?
Non, ne revenez pas en arrière, je te dis. On avance, là, c'est bon. De toute façon, c'est pas grave qu'ils se fassent chourer leurs données. Parce que l'armée américaine, ils utilisent un service très spécial et hyper efficace pour effacer les données personnelles. Inconni !
Ouais, bien sûr.
Vous savez, moi ce que j'aime pas, c'est quand on fait des choses sur moi derrière mon dos. Et par contre, ce que j'aime bien, c'est quand je n'ai rien à faire et que ce sont les autres qui bossent pour moi. Et ça, c'est exactement ce que fait Inconni. Il bosse pour vous et enlève toutes vos informations personnelles qui sont utilisées dans votre dos à votre insu. Vous voyez ce robot là ? Bah en fait, c'est un petit peu comme un courtier en données. C'est un type qui récupère toutes vos données personnelles qui traînent sur Internet. Et croyez-moi, il y en a une chier. Entre les réseaux sociaux, les newsletters, les sites d'achat comme Amazon ou autres, on est comme les escargots, on laisse une sacrée trace sur notre passage. C'est notamment pour ça que Dieu a donné deux jambes aux femmes, hein, aussi, c'est pour pas qu'elles laissent de traces comme les escargots. Et les courtiers, ils rachètent tout ça.
Les traces ?
Ils rachètent les traces, oui, fait de nos informations personnelles. Ça va de toutes vos coordonnées, et quand je dis toutes, c'est toutes, vos centres d'intérêt, vos historiques de navigation et d'achat, à vos informations bancaires, vos renseignements médicaux, vos affiliations politiques, vos croyances religieuses, votre orientation sexuelle. Hein ? Si vous voulez pas trop qu'on sache ce que vous faites le samedi soir à 2h du matin dans les caves des barmiteux du 19e à Paris. Ah mais on vous voit, hein. Si, il y en a plein qui le font. Ouais. Ah bah moi j'en ai croisé plein là-bas. Hein. Et ensuite, ces courtiers vont revendre vos données à des entreprises qui vont polluer vos mails et vos téléphones de spam, de pubs et d'appels hyper relous toutes les 2 heures. Bah oui, mais comment vous croyez qu'ils l'ont eu votre numéro ? Bah on leur a filé, bien sûr, il y a quelqu'un qui a pris votre numéro qui leur a donné. Ça et le reste. Et je vous parle pas des fuites de données ou même des vols, hein, carrément de données qu'il y a régulièrement sur Internet. Alors en fait, on peut demander aux entreprises de retirer nos adresses de leur liste. On a le droit de le faire avec la loi du RGPD.
Tu veux dire que l'auteur de Tintin, il tirait un peu sur le bambou ?
Mais ça n'a rien à voir, enfin. Et donc, bah allez-y, faites-le. Contactez vous-même les dizaines de boîtes, pour ne pas dire les centaines, qui ont vos informations personnelles, pour leur demander de la retirer. Voilà, bah écoutez, on vous souhaite beaucoup de courage. Vous nous préviendrez quand vous aurez fini. C'est pour ça, moi je dis que quand il y a un service qui existe et qui peut s'occuper de tout ça à notre place, c'est mortel. Il suffit d'aller sur inconni.com, vous rentrez quelques informations, et surtout les adresses e-mail que vous voulez qu'on vérifie pour vous. Et oui, les adresses e-mail, hein, parce qu'on peut en vérifier plusieurs, moi j'en ai vérifié 3. Et badabim badabip, vous voyez la longue liste de sites sur lesquels il y a vos informations qui sont en libre circulation, comme ça. Attendez, moi, en 3 clics, Inconni m'a trouvé tout ça. Ah, ça fout un peu les boules, ouais. Non mais sérieux, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé à vous de recevoir des spams ou des pubs ou même des appels, tu vois, des appels téléphoniques hyper relous. Avec Inconni, vous avez 2 types de forfaits. L'individuel, avec ça, Inconni envoie des demandes de suppression répétées aux courtiers en données pour vous-même. Et le forfait famille et amis, pour que vous puissiez ajouter 4 de vos proches pour qu'ils bénéficient du même service que vous. Et si en plus vous utilisez mon code 12parsec ou que vous cliquez sur le lien dans la description, vous pourrez choper une réduction de 60% sur le forfait annuel. Et voilà, remercions Inconni pour leur travail très très utile. On découvre maintenant le jeune Samuel Witwicky. Je sais pas ce qui est le plus ridicule entre son nom et son prénom.
Bah ça va Samuel.
Non, ça va pas, non. Samuel. Personne s'appelle Samuel. Ou alors ils ont aucune dignité. Et le petit Sam, là, il fait un exposé sur son grand-père qui était explorateur et qui a exploré le Grand Nord. Le truc a l'air de se passer en 1642. Et surtout, Sam essaie de vendre les objets de son grand-père aux autres élèves dans la classe.
Pour 80$, il est à vous. Tout est à vendre, hein, je précise.
Attends, mais qui va vouloir de tes merdes, là ? L'autre, il se croit une vente aux enchères. Alors regarde la gueule des élèves, quoi. Il y en a un qui a 12 ans et l'autre qui a 30 ans. Une classe normale aux États-Unis. Et après les cours, son père va lui acheter une voiture. Et là, il s'arrête sur une bien old school, là, mais pas mal stylée, là. Salut, c'est Chia le Boeuf. Je veux savoir combien vaut cette voiture. Le vendeur lui annonce le prix, 5 000$, et le daron veut pas l'acheter. En même temps, 5 000$ pour une bagnole comme ça, franchement, elle est bonne pour la casse.
Ouais, mais elle fait du 0,5 au-dessus de la vitesse lumière.
Ah, ça m'intéresse. On peut faire le raid de caissel avec ? Ouais, mais il faut réparer l'hyperdrive. Les data ils feront l'affaire. Non, elles feront pas l'affaire. Et ouais, non, mais l'autre, il est dur en affaire. Il veut pas la lâcher. Tout explose ! Eh ben mon pote, tu le crois pas, mais là, la voiture, elle vient de faire exploser les vitres de toutes les autres voitures. Comment elle a fait ça ?
Mystère.
Du coup, le vendeur est OK. Et nous voici maintenant au Pentagone, Washington DC. Alors, c'est marrant parce que le Pentagone et la Maison Blanche, là, et tous les trucs comme ça, là, aux États-Unis, moi, je trouve qu'on a l'impression que parfois, en fait, ça existe pas en vrai, ça. Ça existe que dans les films. En fait, c'est des trucs qui ont été créés spécialement pour le cinéma. Alors que non, ça existe vraiment. Non, mais sans déconner, le nombre de films où on voit le Pentagone et la Maison Blanche, quoi. Et même plus largement, le nombre de films américains dans lesquels on voit des hommes politiques. Le président des États-Unis, on le voit tout le temps. Et en plus, à chaque fois, il est joué par des mecs un peu stylés. Alors, je crois que le meilleur président des États-Unis au cinéma, c'est quand même Jamie Foxx dans White House Down. Attends, le mec, il est sous le feu des balles, il a des Jordans. Et là, c'est John Voight qui joue le secrétaire d'État à la Défense. Michael Bell a repris parce que justement, John Voight avait déjà joué le président des États-Unis, Roosevelt, dans Pearl Harbor. Et là, il joue l'équivalent de notre ministre de la Défense, quoi. Pourquoi nous, on fait pas des films aussi comme ça, un peu vénère, avec tous nos hommes politiques, t'sais ? Attends, pendant qu'ils sont là, faut en profiter avant qu'ils aillent tous en prison. En même temps, avoir la gueule de certains ministres, là, on serait vraiment plus dans un film catastrophe. Et là, dans l'assemblée rassemblés parmi tous les militaires. Il y a trois jeunes, deux geeks de merde et une bombe atomique. Et d'ailleurs, c'est ça qui est marrant aussi avec Michael Bay, c'est que lui, pour les meufs, il choisit toujours des avions de chasse, mais même pour les plus petits rôles. Bon alors Michael, pour le rôle de la dame pipi sur l'autoroute, là, un petit rôle de 3 secondes, on prend qui là ?
Alors j'hésite entre Sidney Sweeney, Ana de Armas et Alexandra Daddario. Bah écoute, on va prendre les trois. Hein.
John leur dit qu'il y a une base qui s'est fait attaquer au Qatar, et que le truc qui a essayé de leur chourer les informations a laissé ce son. Et ouais, c'est un son hyper mystérieux qui a tout l'air d'être un signal extraterrestre. Il va falloir analyser ça en profondeur. On peut faire des groupes de deux. Moi, je me mets avec la blonde, là, si c'est possible. Sam arrive au lac avec son pote. Et alors là, le problème avec ce genre de scène chez Michael Bay, c'est qu'il y a énormément de clichés à la seconde. Et la vérité, c'est que, en fait, je saurais même pas dire si Michael Bay, il fait ça parce que c'est son style, parce que c'est ça qu'il veut montrer, parce qu'il kiffe. Ou s'il y a plutôt un côté volontairement appuyé, tu vois. Genre, voilà, il se moque un peu des clichés, quoi. Est-ce qu'en fait, ce serait pas juste un peu parodique, quoi ?
C'est pas sûr, ça, hein.
Non, mais c'est pas sûr du tout, je sais. Moi, je pense juste qu'il kiffe ça, en fait. C'est pas du tout une parodie, c'est son style. Il y a le jeune sportif un peu beau gosse, là, qui lance son ballon de rugby, quoi. Enfin, en fait, on devrait plutôt dire un ballon de football. Sa meuf ultra bonne qui arrive derrière lui. Le jeune bouffon qui arrive et tout le monde se fout de sa gueule. À ce moment-là, on est en 2007, et bah, cette scène, on l'a déjà vue 2853 fois. J'essaie, j'ai compté. Et en même temps, je vais vous dire un truc. Écoutez-moi, parce que c'est moi qui ai raison. Parmi ceux qui me regardent, là, il y en a certainement plein d'entre vous qui ont déjà été aux États-Unis. Et vous serez peut-être d'accord avec moi pour dire qu'il y a des choses dont on peut pas se rendre compte, nous, les Français, c'est que parfois, ce qu'on croit être des clichés dans le cinéma américain n'est en fait qu'un simple reflet de la réalité. Je vais juste vous prendre deux exemples rapides. En 2006, je suis allé à New York pendant une semaine, et j'ai vu des trucs dans la rue au quotidien, j'avais l'impression que j'étais dans un film, quoi. J'avais l'impression d'avoir déjà vu plein de trucs au cinéma. Les bagnoles de flics, les hommes d'affaires qui sortent des buildings, les clodos, les taxis jaunes. J'avais littéralement l'impression que je vivais dans un film. Et le deuxième exemple, qui est presque encore plus parlant que ça, je trouve, c'est quand je suis allé à Los Angeles 2 ans plus tard, plus exactement à Venice Beach. Vous savez, cette espèce d'image qu'on a de la Californie, là, avec les nanas qui font du roller en maillot de bain, les mecs qui font de la musculation plein air, les clodos avec leur caddie et leur chien, là, et les sauveteurs en mer en mode alerte à Malibu sur la plage. Et bah, tout ça, les gars, je les ai vus sous mes yeux. C'était vraiment comme ça, en fait. Genre, là-bas, c'est la réalité. Et du coup, on peut se demander si ce qu'on voit dans les films, nous, en tant que Français, on pense que c'est des clichés. Au final, non, c'est juste comme ça que ça se passe en vrai. Alors, on peut pas nier qu'il y a un côté qui fait quand même assez superficiel, mais une fois qu'on est dedans, attends, c'est génial. Exactement comme les cagoles à Marseille. Ou alors, il y a rien qui est vrai, et moi, quand j'y suis allé, en fait, c'était un petit peu comme dans The Truman Show, tu vois. Je croyais que tout était réel, mais en fait, c'était que des acteurs qui m'attendaient que j'arrive, parce que c'était moi la star. La meuf du sportif, Michaela, jouée par la très très talentueuse Megan Fox. Alors, cette meuf-là, je crois que j'ai jamais vu aucun autre film avec elle que Transformers. Ah si, j'ai vu les deux Ninja Turtles.
T'as pas vu Expendables 4 ?
Ah non, il paraît que c'est de la merde, celui-là. Bref, Michaela se prend la tête avec son mec, elle se barre, et là, pour Sam, c'est l'occasion de sa vie.
C'est moi qui vais la ramener.
Oh, tout de suite, il est dégueulasse.
Mais non, ramener.
Ah.
Tu sais quoi, j'ai qu'à te monter si tu veux. Je veux dire, t'as qu'à monter si tu veux.
C'est nul !
Alors, des répliques comme ça, là, il va y en avoir quelques-unes. Et encore une fois, c'est là que c'est bizarre, je trouve, parce que c'est pareil. Est-ce que c'est parodique ? Est-ce que, voilà, Michael Bay, il veut juste se moquer du truc ? Ou est-ce que non, c'est vraiment le style lourdeau de Michael Bay qu'il aime et qu'il veut mettre parce que ça va faire marrer les adolescents ? Mais pas du tout les adultes posés, réfléchis et sensés comme moi.
Ça t'a pas fait marrer, ça ?
Non, pas du tout.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout.
Pourtant, vous me connaissez. D'ailleurs, l'humour gras, c'est un petit peu mon domaine de prédilection. Oui, sauf que il faut que c'est bien mené. Si c'est pas bien mené, c'est moche. Et là, la bagnole, elle cale volontairement. Et en plus, elle met de la musique trop culte. Et là, c'est le moment où Michaela, elle sort pour nous faire un cours de mécanique.
Attends, la tête de Delcom a l'air de se balader. Faut resserrer.
Elle se turbo-cambre comme une ouf pour aller mettre les mains dedans. Là. Et là, Sam, il en peut plus, il est en train de tremper son calbut. Et chez le boeuf, évidemment, pas du tout surjoué, le gars. C'est pour ça que je suis emmerdé, parce que tous ces trucs-là dans le film, je trouve que c'est ultra nul. Mais en même temps, pourquoi on va voir Transformers ? On va voir pour des conneries comme ça, tu vois. Je veux dire, est-ce qu'on peut vraiment reprocher à Michael Bay de faire de la merde comme ça dans un film comme Transformers ? Tu veux savoir combien vaut ta voiture ? Non mais c'est bon, je l'ai vu la pub. Non mais voilà, bon, j'arrête pas de le répéter, on sait qu'on est dans un Michael Bay, mais je trouve que cette séquence, elle fonctionne pas du tout. Et c'est con parce que Michael Bay, on l'a déjà dit aussi, mais il peut avoir des pures idées de mise en scène. Dans quasiment tous ses films, il fait des trucs que j'adore. Je sais pas si vous avez vu Ambulance, un de ses derniers films sur Netflix, mais les 20 premières minutes, je trouve qu'elles sont dingues. Les plans en drone, là, c'est une tuerie. Mais alors quand il s'agit de présenter des personnages et de leur faire dire quelques beaux dialogues, là, franchement, là, il fait pas dans la dentelle. En même temps, faire dans la dentelle, un peu dégueulasse. Et on se retrouve maintenant dans l'Air Force One.
La chaussure Nike?
Non, l'avion présidentiel.
Ah ouais,
on n'a pas tellement de raison de se retrouver dans une chaussure. Les Air Force One, c'est des Nike comme ça. Hein, c'est celle-là hein, que de mon pote Papa Custom, hein, bien sûr. Et là, il y a un robot méchant qui va essayer de chourer des trucs en se baladant tranquille dans les couloirs de l'avion sans que personne le voie. Encore un bon gros truc qui m'énerve. Allez, je suis pas désolé. Hein. Je veux dire, des robots extraterrestres qui se transforment en bagnole. Bon, on est dans un film de science-fiction. Ok, moi j'achète. Mais là, le robot qui se cache à la dernière seconde et le type qui était juste là et qui le voit pas, non, ça c'est n'importe quoi. Michael Bay commence à prendre un mauvais virage. Il faudrait freiner un peu sur le foutage de gueule. Alors l'hôtesse, elle trouve l'autoradio, là, il s'est transformé comme ça. Et regardez bien ce qui va se passer. Paraît-il que le budget effets spéciaux du film a été quasiment entièrement bouffé juste pour ce plan-là. Attention, elle pose l'autoradio, elle prend un truc dans le frigo, et attention, hop, l'autoradio est plus là. Eh. Eh, hein?
Ah oui, franchement,
ça c'est de l'effet de ouf où je m'y connais pas. Et regardez juste après, là, le truc est là, à 1 mètre d'elle. 1 mètre c'est pas beaucoup, tu vois, genre 1 mètre c'est ça, tu vois, le truc est là, quoi. Là. En plus il bouge, tu vois, et là elle le voit pas non plus. Personne ne voit rien dans ce film, en fait. Ah bah ça va pas être dur de nous envahir, hein. Et attendez, parce que vous croyez que c'est fini, mais c'est pas du tout fini, c'était que le début. C'était rien du tout, ça. Parce que le robot arrive à chourer des infos, et ensuite quand Air Force One atterrit, alors là, bah écoutez, je vais juste vous mettre le plan en entier, et réellement ça se passe de commentaires. Voilà, bah franchement je sais même pas quoi écrire là-dessus. Ah, ils sont efficaces les services de sécurité américains. Tu m'étonnes qu'ils ont mis 10 ans à trouver Ben Laden. Le robot rentre dans une bagnole de police qui est en fait un Transformers aussi. Et on comprend qu'ils doivent trouver Sam par rapport aux lunettes de son grand-père. Et en fait, on n'a pas eu de nouvelles de nos militaires dans le désert là, où qu'ils en sont. Hein. Alors yeah, vous faites quoi là? Tiens, par contre, tu feras gaffe, toi t'as un gros scorpion derrière toi là. Ouah, qu'est-ce qui se passe? C'est parti, c'est la guerre! Dans le tas! Tout ce qui bouge pas, c'est du bien.
Mais ça, c'est pas le même film, hein.
Oui, non, mais c'est... ça va quand même, je trouve. Fais-moi un petit peu... Et donc là, ils se font attaquer par un énorme solifuge en métal. C'est ce que c'est un solifuge? C'est une toute petite créature très mignonne qui vit dans le désert. C'est hyper mignon, là. C'est tout kawaii. Ça ressemble à ça, voilà. Oh, il y a des costumes mignons. Oh, je vais mourir de mignonitude. On a vraiment envie de lui faire un câlin. On appelle ça aussi la camel spider. C'est une araignée qui fume des clopes. Et là, regardez encore une fois l'efficacité des soldats américains. Il y a un gars qui cherche la salbait. Et là, il est sur le qui-vive. Et attention, Simon, derrière toi! Non mais attendez, mais qu'est-ce qu'il fout le gars là? Il a pas du tout réagi en fait. Le mec ne réagit pas quoi, il se passe un truc de ouf derrière lui, tu vois. Le mec est quand même soldat au départ. Il a été formé à réagir hyper rapidement au truc qui se passe. Mais là que dalle, il reste immobile et il se fait planter, voilà. Et bah moi ce que j'en dis c'est que c'est bien fait pour sa mouille. Allez, là ils arrivent dans la capitale du pays, hein, au lieu de culture et de technologie. On voit bien à l'architecture que c'est un peu the place to be. Oh sérieux, non mais hey, on est en 2025 les mecs. Hein.
Non mais là on était en 2007 pour eux.
Ouais, bah... Avant ou après Jésus-Christ? La vilaine bête continue de les attaquer et ils arrivent à appeler du renfort. Et alors là, ce qui est génial, c'est que d'un seul coup, le film va se transformer en un clip de promotion pour l'armée américaine. Tu sais, c'est un peu les pubs qu'on voit dans les salons de recrutement, là. Tout y passe, les différents types d'avions, les mecs qui bossent, ils se parlent hyper vite avec du jargon militaire, toi tu comprends rien, mais tu dis que ça a l'air hyper important. Et ça marche carrément bien, parce qu'après toi tu vois ça, bah t'as tout de suite envie d'aller t'engager, tu vois, pour être dans le désert, puis tuer des araignées, tu vois. Des araignées, oui, des grosses araignées du désert. Non, mais excusez-moi, non, mais c'est... Allez, c'est les faits armées américaines. Et là, les mecs, ils sortent l'artillerie lourde. Ils vont tirer au 105. Je te jure, ce film, en fait, c'est une démonstration de la puissance de l'armée américaine. Il n'y a que chez Michael Bay que tu vois ça, et aussi chez David Lynch et chez François Truffaut. La queue stop model, elle comprend avant tout le monde que l'attaque vient d'un truc extraterrestre, mais les autres, ils lui disent tous qu'elle est bien gentille, mais qu'elle ferait mieux d'aller faire des tutos maquillage sur YouTube. Et là, je fais exprès de dire une connerie, mais la vérité, c'est que c'est très certainement une situation que des milliers de femmes ont connue à l'armée américaine. Et puis, d'ailleurs, je dis ça alors que j'en ai foutrement aucune idée. Mais j'essaie de faire un peu le mec qui dénonce, tu vois, sauf que j'en sais rien, en fait. Si jamais il y a des femmes américaines militaires qui me regardent, bah, dites-nous dans les commentaires si vous trouvez que le film est réaliste. Et du coup, elle va voir le seul homme sur Terre qui est capable de déchiffrer ce signal. Un pauvre type complètement random dans une maison de quartier, quoi. En voilà encore un personnage qui va être bien relou jusqu'à la fin, quoi. C'est encore un truc qu'on voit dans plein de films, ça. Un civil complètement lambda qui est plus fort que tout le gouvernement américain. J'avais un peu kiffé ça dans Die Hard 4, quand le pays tout entier se retrouve dans le noir.
Titre!
Mais ferme-la, toi. À cause d'une coupure de courant, mais qu'il y a un type en plein milieu d'un quartier qui, lui seul, arrive à trouver une solution et et à être plus fort que tout le gouvernement. En plus, le gars, il est joué par Kevin Smith, et Kevin Smith, c'est un très bon. Et à peine ils ouvrent le fichier que le FBI débarque et fonce, charge brutale sans personne les annonce. Ah, je sais, je la fais souvent, celle-là. Et hop, tout le monde au poste, ça vous fera les pieds, tiens. Bon, dites-moi, ils sont où, les Optimus Prime et Megatron, là? Est-ce que vous avez prévu d'avoir des Transformers dans votre film sur les Transformers? Parce que là, le film est commencé depuis presque une heure, et pour l'instant, on n'a pas vu la queue d'un. Ah si, on a vu la queue d'un scorpion, mais bon, c'est pas ça qu'on veut voir, nous. On veut voir des bagnoles. Alors là, il y a Sam qui se barre en vélo parce que sa voiture fait des trucs chelous. En fait, elle se barre de chez lui et elle revient, comme ça, toute seule. Et là, elle le poursuit carrément dans la rue. Est-ce qu'on n'aurait pas ici une petite référence à Christine de l'ami John Carpenter? Si, je crois bien que si, moi. De toute façon, c'est pas compliqué. Tu fous une bagnole qui suit quelqu'un en mode vénère, c'est soit une référence à Christine, soit à Duel. Et là, Sam voit une bagnole de flic, il va les voir, mais peu. Ah, le tact de la police. Sauf que là, les gars, enfin les gars, c'est parti. Ah, bah le blague Transformers. Truc de ouf, la voiture vient de se transformer en robot et poursuit Sam qui se barre et peu et bah sur le pare-brise. Bon alors là, on est tous d'accord que normalement, t'as tous les membres et le dos brisé et tu te relèves pas tout de suite. Mais non, là Sam ça va, là non, il a rien du tout, il a juste glissé sur une peau de banane. Et là le robot lui demande où sont les lunettes de son grand-père.
Où sont les lunettes?
Sam se barre, Michaela arrive justement sur le lieu en même temps. Parce que pour le scénario, c'était beaucoup plus pratique comme ça. Sam la chope au passage, la voiture arrive en même temps, il monte dedans. Et là les mecs, plan de ouf numéro 1. Putain mais ce plan sérieux, remets-le ce plan. Encore une fois, ce plan est ouf. Là oui, là c'est validé là. C'était déjà validé sur l'autre d'avant, hein, mais là c'est encore plus validé. C'est hyper rapide, mais c'est carrément bien foutu.
Un peu comme ma vie.
Et c'est parti pour la première course de bagnole. C'est pas trop tôt, hein. J'ai failli attendre. Encore 2 minutes et je repassais sur Transmorphers. La voiture arrive dans un hangar, elle gerbe Sam et Michaela. Et là le truc de ouf sous vos yeux ébahis. La voiture se transforme elle aussi en robot géant. Non mais sérieux, est-ce que vous avez vu la qualité des effets spéciaux? À ce moment-là, il faut vraiment tout regarder. Les mouvements, la texture, l'animation, l'incrustation dans le film, la lumière et tous les petits détails. Sérieux, je me souviens m'être dit à l'époque au cinéma que j'avais jamais vu ça, quoi. Pour moi, c'était vraiment une révolution. C'est hyper bien fait, quoi. Et encore aujourd'hui, 20 ans après, je trouve ça hyper impressionnant. Il y a des effets spéciaux de films qui sortent aujourd'hui, et je parle de grosses productions, hein, qui sont pas aussi bien faits que ceux de Transformers il y a 20 ans. Allez, grosse baston entre le robot jaune et le robot noir. J'espère que c'est le jaune qui va gagner.
Pourquoi pas le noir?
Parce que, attends, oh, c'est bon. Oh.
Il est très bien, le noir.
Non, mais oui, mais c'est pas ça. Non, c'est juste que, oui, quoi.
Non, on voit pas, non.
Mais il est méchant. Le robot noir, là, c'est le robot méchant, il me semble. Voilà. Bah oui, mais... comme par hasard. Allez, grosse baston de robot, là, ça envoie du lourd, et c'est le gentil qui gagne. Et alors là, les potes, avec cette petite scène, on prend enfin le temps de découvrir un vrai Transformers avec sa vraie taille et tout. Alors au départ, on sait pas trop s'ils peuvent parler, tu vois, comme nous, voilà, donc ce qu'on va découvrir, c'est que Bumblebee, bah là, il va parler à travers la radio, le poste radio de la voiture.
Tu parles en te servant de la radio?
Merci, vous êtes magnifique, vous êtes merveilleux, merveilleux.
Je trouve que cette scène et même cette idée est proprement géniale. Avec la musique un peu mystérieuse en fond, la vanne des japonais.
À tous les coups, c'est japonais.
Mais évidemment que c'est japonais, bien sûr. Ah, je peux vous dire que j'en reviens tout juste là du Japon, j'y ai passé 15 jours et j'ai vu des trucs de ouf. Hein. J'ai pas vu de Transformers, mais on était pas loin parce que j'ai vu la statue en grandeur nature de Gundam.
Gundam, au secours!
Je vous en parlerai très bientôt de mon voyage. Et si je refaisais un live Twitch pour en parler, tiens. Pourquoi pas, à réfléchir. Enfin bref, cette scène assez rapide, je trouve que c'est une petite tuerie. Et surtout, ça finit par, selon moi, le meilleur plan du film.
Bordel, mais ce plan,
tu reconnais ? Est-ce que c'est pas l'un des meilleurs plans de films de science-fiction que vous avez jamais vu ? La propreté des effets spéciaux. C'est absolument parfait. Alors, bon, évidemment que non, c'est pas parfait. Et ça peut pas être parfait. Il doit y avoir plein de détails un peu à la con qu'on voit pas. Mais en 2007, c'était vraiment le must de ce qu'on pouvait faire en matière d'effets spéciaux. Dites-moi que vous êtes d'accord avec moi. C'est mortel. Bumblebee se transforme en une nouvelle bagnole, il passe d'une vieille Chevrolet 77 à une nouvelle Camaro Concept de 2006. Un modèle qui n'existait même pas encore à l'époque. C'est une sorte de vitrine pour Chevrolet. Et au final, c'est presque dommage parce que moi je trouvais que la vieille Chevrolet 77, elle avait un peu de gueule, t'as. Je kiffais le style. Par contre, elle avait un problème de pot d'échappement. Hein. Puis en plus, c'était pas facile d'en trouver. Hein. Bah rappelez-vous, Raphaël, dans le Tortue Ninja, là, il en cherchait un.
On cherche un pot d'échappement pour une Chevrolet 77.
Ouais, mais là, avoir la tête du vendeur, ils en avaient plus. Et bien évidemment, vous aurez tous reconnu reconnu la référence à Spider-Man.
Kill Bill.
Kill Bill, Kill Bill, oui, pardon. Avec le thème musical et la couleur de la voiture, jaune avec une bande noire, en référence à Uma Thurman dans Kill Bill, qui fait elle-même référence à Bruce Lee dans son tout dernier film Le Jeu de la Mort, qui fait lui-même référence au gilet jaune lors des affrontements contre la police. Et oui, on ne le sait pas forcément, mais c'est vrai. Hein. Et là, c'est parti, la cavalerie arrive. Alors pareil, cette scène est absolument géniale. Le thème de la BO, c'est le morceau le plus connu, Arrival to Earth. Je l'écoute tout le temps, et la version longue de 8 minutes, je vous mets le lien dans la description. Ce thème est tellement cool que pendant un moment, il l'avait repris pour les Oscars. Il y a 4 nouveaux Transmorphers qui arrivent.
Transformers.
Oui, c'est pareil. Et là, la scène dure 5 minutes, et je peux pas tout mettre, évidemment, mais chaque robot qui arrive sur Terre est méga classe. Ils défoncent tout sur leur passage, évidemment. Il y en a un qui réveille une petite fille, là, qui prend sa petite pochette pour ça dedans. Oh, oh, petite mémère. Kawaii. Putain, mais c'est trop laid, sérieux, j'ai envie de la claquer, cette gamine de merde.
Oh, ouais, ça va, là, hein, oh.
Non, ça va pas, non. Ah, il y a des fois, je vous jure, Michael Bay, il m'énerve. Tu sais, tu regardes le film, t'es énervé par la connerie du plan, quoi. Ça me fait tout le temps ça quand je regarde des vidéos d'Astrono Geek. Ah, ça, je peux te dire que tu verrais pas un truc comme ça chez les frères Cohen, hein. En même temps, les frères Cohen, c'est chiant, quoi.
Tu crois que c'est parce qu'ils s'appellent comme ça?
Je sais pas, c'est possible. Et les Transformers, ils vont tous copier direct les véhicules qu'ils vont croiser. On en profite pour prendre un petit chèque chez Cadillac et chez General Motors. Ça fait toujours plaisir. Ah, je me demande combien il prend pour l'OP, là, Michael Bay. Et là, on va enfin faire la connaissance de l'équipe des gentils et surtout de leur chef. Attention, ils arrivent. Préparez-vous. Le fucking big ass truck arrive et c'est parti! Vous vous rappelez tout à l'heure quand j'ai dit que le plan de Bumblebee qui se transforme, c'était le meilleur plan du film? Eh ben, je change. C'est celui-là, le meilleur plan du film. Sérieux, les gars, mais... on peut être sérieux deux minutes ou pas, là?
Non.
Est-ce que ce plan, c'est pas une putain de tuerie?
Bah non.
Mais ta gueule, toi! Tu peux pas la fermer, non?
Non!
Mon nom est Optimus Prime.
Optimus Prime. Le nom est aussi badass que le robot lui-même. En même temps, c'est normal qu'il ait un nom un peu comme ça, quoi. Et t'imagines, il aurait dit... Mon nom est Jean-Guy Pelletier, mais mes amis m'appellent Jean-Jean. Je travaille aux espaces verts de la mairie du 8e. Ouais, tout de suite, ça rend pas pareil.
C'est ça qui vous aide dans les Transmorphers,
hein. Ah oui, non, mais ça m'étonne pas. Hein. Ah bah, quand tu t'appelles Jean-Guy, tu bosses forcément à la ville. Et en même temps, il aurait pu s'appeler comme ça. Ah bah, regarde, l'autre, il s'appelle bien Gilles.
Comment ça?
En fait, non, il s'appelle Ironhide. Mais en VF, il est doublé par Gilles Morvan. Alors, pas dans le 1, justement, mais à partir du 2, c'est que Gilles Ironhide. Vous connaissez Gilles Morvan, hein, on en a déjà parlé plusieurs fois, hein, il fait partie de la famille. Gilles est un grand parsecien devant l'éternel. Et donc, voilà, Optimus, il présente un peu tout le monde. Hein, on a son bras droit, Jazz. Gilles, donc, hein, le spécialiste des armes. Le médecin Ratchet. Et le petit clan qu'en dernier. Et elle est pas si où, Rivette elle est où, là? Ah, elle était bien mignonne, Rivette.
Non, mais c'est pas une humaine, c'est une lombax.
Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Il y a des lombax qui sont dégueulasse, il y a des lombax qui sont ultra bonnes. Et non, le dernier, bien sûr, c'est Bumblebee, l'ange gardien de Sam. Et on aura tous reconnu les voix de Jack France pour Optimus Prime et Alain Dorval pour Ratchet. Deux des voix les plus reconnaissables de toute l'histoire du doublage français. Alain et Jacques, j'espère que vous nous regardez de là-haut. Vous êtes partis beaucoup trop tôt, les gars. Embrassez bien fort Patrick, Daniel, Benoît, Pierre, Emmanuel et Eric pour nous. Dites-leur qu'on pense à eux, qu'ils nous manquent et qu'on ne les oubliera jamais. Et là, Optimus explique à Sam que ce sont des extraterrestres de la planète Cybertron, c'est-à-dire une planète qui est faite en caca de robots, qu'ils s'appellent les Autobots, qu'ils sont à la recherche du Allspark, et que le chef des Decepticons, Megatron, un robot qui a la faculté de se transformer en une gigantesque merde, a suivi le cube jusque sur Terre, mais qu'il s'est écrasé au pôle Nord, et que c'est le grand-père de Sam qui l'a trouvé et qui l'a accidentellement réactivé.
Les coordonnées de l'emplacement du cube sur Terre ont été gravées sur ses lunettes.
Et si les Decepticons retrouvent les lunettes avant les Autobots, ils transformeront toutes les machines sur Terre en une gigantesque armée et ils anéantiront la Terre.
Le sort de la Terre est entre tes mains.
Bien sûr, oui, tout à fait. Bah, écoutez, à ce moment-là, moi, ce que je peux vous proposer, c'est que vous récupériez les lunettes et puis que bah, vous vous foutez le camp le plus loin possible à l'autre bout de la galaxie. Hein. On ne veut pas de votre cube de merde, attendez, non, mais on a rien demandé, nous. C'est pas notre guerre. Alors ensuite, il y a une scène nulle où les Autobots arrivent chez les parents et foutent la merde et personne ne les voit. Puis le bœuf, il arrête pas de jacter, il est insupportable. Les dialogues sont nuls, les gags sont nuls, toute la situation est nulle. Vous savez à quoi ça me fait penser?
Non.
Ouais, non. Si vous pensez que je vise quelqu'un, vous avez raison. Eh oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Après une scène hyper cool, il fallait bien que Michael Bay rééquilibre la balance en mettant une scène complètement pourrie. De toute façon, dès que les parents arrivent dans une scène, le film devient complètement nul à yèche. Le FBI arrive avec l'ami John Turturro et embarque tout le monde. Alors John Turturro, évidemment, hein, bah, on le kiffe. Il a eu plein de purs rôles, hein, notamment, évidemment, dans The Big Lebowski. Moi, je l'avais découvert dans Barton Fink, aussi des frères Cohen, on en parlait juste avant. Et il a aussi joué dans O Brother, hein, on le retrouve souvent chez les Cohen. Mais alors, tain, c'est pareil, mais alors dans ce film, excusez-moi, mais il est trop relou, quoi. C'est censé être un peu le personnage comique de l'histoire parce qu'il essaye tout le temps d'être sérieux. Mais tous les gars avec lui dans le film, c'est super nul quoi. C'est à la limite du cringe, toi. On dirait un peu.
Bon, ça suffit avec PH là.
Mais j'allais pas dire PH.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais, si. Par exemple, là, les Autobots, ils les arrêtent sur l'autoroute pour récupérer Sam et Michaela, et Bumblebee, genre, il lui pisse dessus, quoi. Super drôle, eh. Génial, hey, Michael, super. Génial.
Ça, c'est marrant.
Ensuite, on va avoir encore une scène trop longue où les humains vont essayer de capturer les Autobots. Ils arrivent à choper Bumblebee, Sam et Michaela pendant que les autres Autobots ne branlent rien. Ils laissent faire, hein, complètement. Hein. Ils pourraient tous les neutraliser sans problème et tout exploser sans les tuer. Mais non, ils sont en mode spectateur et ils regardent leurs potes se faire torturer sans bouger un rétro.
On ne peut pas porter secours à Bumblebee sans risquer de blesser les humains.
Pff, tu parles, eh. Tu veux pas le sauver parce que c'est le seul qui parle pas et puis t'en as plus rien à foutre. Bah, avoue-le. T'aimes pas les jaunes? Raciste. Et en avance, il se passe plein de trucs, tout le monde court dans tous les sens comme des poulet sans tête, si tant est qu'un poulet sans tête peut courir dans tous les sens. Tout le monde est rassemblé et arrive très célèbre Hoover Dam, le barrage qui bloque la Colorado River à la frontière entre l'Arizona et le Nevada. Et ce barrage a une petite saveur particulière pour moi, parce que j'y ai été, et oui, absolument, j'ai marché le long de ce barrage. Et oui, regardez, c'était en 2008, hein, je me le racontais déjà vidéaste avec ma voix de bouffon.
Pour ceux qui s'intéressent au cinéma d'action américain,
regardez un peu comme j'ai l'air d'un énorme sac à merde. Petit plan du secrétaire d'État à la Défense qui descend de l'hélicoptère au ralenti. Alors, pourquoi il descend au ralenti?
Pourquoi pas?
Ben oui, pourquoi pas. Le ralenti qui est absolument pas justifié, tu vois. Les Autobots disent qu'ils peuvent pas laisser Bumblebee mourir. Et Bumblebee dit que si, on peut tout à fait le laisser mourir, c'est pas grave, écoutez, y'a aucun problème.
Il sera mort en vain si nous n'accomplissons pas notre mission. Bumblebee est un valeureux soldat, c'est ce qu'il souhaiterait que l'on fasse.
Ouais, enfin... C'est toujours plus facile de dire ça quand c'est pas toi qui as capturé. Toi, tu vas très bien, et puis tu veux surtout pas que ça change. Attends, t'imagines, tu te fais capturer, tu vois, tu te fais torturer, et puis toi, ta team, elle dit, non, mais il a le sens de l'honneur et du devoir. De toute façon, il voudrait qu'on continue sans lui. Mais trop pas, putain, mais venez me chercher, bande de connards! Attends, ton sens de l'honneur et du devoir, tu peux te le carrer bien profond dans le pôle d'échappement. Alors ensuite, on a la minute un petit peu émotion. T'as Jazz qui va demander pourquoi il faut sauver les êtres humains qui nous emprisonnent et nous torturent.
Ils ont encore beaucoup à apprendre, mais j'ai pu voir qu'il y avait du bon en eux.
Ouais, c'est vrai, il y a du bon en eux. Il y a aussi des bonnes en eux. Et d'ailleurs, c'est marrant, on n'a pas vu de meuf chez les robots. C'est chelou ça. Il n'y a pas de filles chez les Transformers.
En fait, ils en ont pas fait parce qu'ils savaient pas trop comment les faire et ils se sont dit que ça pourrait paraître comme bizarre.
Ah bon? Bon, bizarre.
Ouais, et du coup, ils en ont quand même mis au début du 2, tu vois. Et c'est des petites motos toutes roses.
Ah ouais, oh vache, attends, ouais. Dans les films de Michael Bay, les meufs, même quand c'est des motos, elles sont super bonnes. Bon, on passe sur toutes les explications. Ils ont trouvé Megatron et le cube il y a 300 ans. Ils savent pas du tout ce que c'est, mais justement, Sam va tout leur expliquer. C'est toujours le moment dans les films où t'as un personnage qui explique à un autre tout ce qui se passe, mais en fait, il nous explique à nous, les spectateurs, pour qu'on comprenne la situation. Procédé de narration, somme toute, assez classique, mais ô combien efficace, bien qu'un peu paresseux, si vous voulez mon avis. Et là, c'est le moment où tous les méchants se rassemblent. Et alors là, ce que je kiffe, et je trouve ça un peu bizarre, parce que c'est même assez paradoxal quand on y pense, c'est que les Américains, ils sont fans de l'armée, t'as. Ils sont hyper fiers de leur armée, t'as, de leur puissance matérielle et technologique. Ils sont un peu les sauveurs du monde qui vont maintenir la paix partout, t'as. Et pourtant, les Decepticons, donc les méchants de l'histoire, ils se transforment tous en véhicules de l'armée. C'est-à-dire des tanks, des hélicoptères, des camions, des avions de chasse et tout. Alors que les Autobots, donc les gentils, eux, ils se transforment pas du tout en véhicules de l'armée, mais plutôt en camion, en voiture, tu vois, un petit peu beau, shiny et coloré. Donc bah faudrait savoir, c'est quoi l'image que vous voulez donner de l'armée en fait? Vous voulez qu'on vous kiffe ou qu'on vous kiffe pas? Putain, Michael Bay, comment il sait trop pas réaliser un film, quoi.
Alors lui, il est nul.
Les Decepticons arrivent et arrosent la zone. Sam vient libérer Bumblebee qui a toujours un pur style de ouf avec son masque. Ah, sans déconner, s'il y a un truc qui est vraiment bien réalisé dans le film, c'est le design des robots. Bumblebee retrouve enfin le cube et enclenche le mode rangement. Et on découvre que c'est a priori ce truc-là qui fait que les Transformers peuvent se transformer. Enfin, j'en sais rien, je sais pas si c'est ça. C'est ça ou pas?
Non, c'est pas ça.
Ah, bon, bah c'est pas ça alors. Et là, le militaire propose un truc.
Mission City est à 40 bornes, on va évacuer ce satané cube d'ici et le cacher quelque part en ville.
Voilà. Donc on va aller cacher le cube en ville. Mais dis donc mon con, c'est une excellente idée ça! Comme ça on va pouvoir ramener la guerre, les affrontements de ouf et les explosions au dernier endroit où il faudra qu'il soit, en plein centre-ville! Là où il y a le plus de monde et où ça peut faire le plus de dégâts possible. Bien les gars de l'armée, super! Hein, mais vous c'est pareil, changez rien! Allez, faut se bouger là, parce que Megatron est en train de se libérer.
Je suis... Megatron.
Putain, mais la vieille phrase de merde, quoi. Je suis Megatron. Ça, ça me rappelle la phrase d'entrée de Batman contre Mr. Freeze dans Batman et Robin.
Salut, Freeze. Je suis Batman.
T'en déconnes, quoi. On dirait la VF d'un sketch des Inconnus.
D'abord, tu me dis où est Freeze. Après, je t'emmène en cellule.
Mais comment ils ont pu faire ce film en pensant que ça allait marcher? Ça, c'est vraiment un des plus grands mystères de toute l'histoire du cinéma. Allez, c'est parti, montage vénère, là. Clac, clac. Ah, ça, c'est bon. Ça j'aime bien. Ouais. Ah, bah, quand t'es monteur vidéo, les petits trucs comme ça, un peu vite fait, mais hyper efficace, ça tu valides. Optimus et tous les autres rejoignent
rejoignent Bumblebee et Sam, toute la team est au complet. Bon, par contre, on parlera pas trop du bilan carbone de ce film. Avec tous les camions et les bagnoles qui ont dû rouler pendant des semaines pour le tournage, les Decepticons les prennent en chasse, et attention, transformation! Non mais c'est pas possible, y a rien à dire. Tous ces passages à chaque fois sont absolument géniaux. Et là les gars, cette baston va encore une fois être ouf, et j'attire vraiment votre attention, j'arrête pas de le dire, mais sur la qualité des effets spéciaux. La qualité de l'incrustation dans un plan comme celui-là par exemple. Sérieux, mais c'est ultra bien fait. Il y a un monde entre ces effets spéciaux-là et ceux de dizaines, de centaines d'autres films de la même époque. Et même des films sortis des années après. Franchement, là, on est juste en dessous du Roi Scorpion dans La Momie 2. Bah après, La Momie 2, c'est sorti 6 ans avant, mais... Alors sinon, on a toujours le bon vieux Dragon Ball Evolution, hein, sorti 2 ans après, hein, Transformers. J'exagère, je sais, ouais, c'est pas bien de se moquer. Ici, on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance.
On est là pour lui défoncer sa race à l'ambulance.
Optimus défonce le Decepticons, il est quand même plutôt balèze, hein, là pour le coup, il en voit. Ce qui permet à tout le monde de venir en plein centre-ville, au milieu de la rue, pour évacuer le cube. Mais sérieux, mais ça, mais si c'est pas l'idée la plus con de tout le film? Mais pourquoi ils sont venus se foutre en plein centre-ville? Là où il y a plein de gens.
Je comprends pas.
Mais non, moi non plus, je comprends pas. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui va se passer, bande de connards? Bah les Decepticons, ils vont arriver pour tout défoncer. Donc faut évacuer tout le monde et il y a immédiatement 40 blessés. Non mais attendez, je suis le seul que ça choque ou pas là? C'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils sont venus foutre là? Ils pouvaient aller n'importe où ailleurs où il y a personne. Le pays est grand, que je sache. En plus, faut qu'il y ait des avions qui atterrissent pour venir récupérer le cube. C'est vrai que c'est vachement pratique d'atterrir en plein milieu des immeubles là. Je sais pas, c'est moi qui ai pas compris le truc, peut-être, j'en sais rien. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. En tout cas, maintenant Bumblebee, il a plus de jambes, il peut plus bouger. Et du coup c'est triste parce que Bumblebee on l'aime, tu vois, c'est notre pote. Et Michaela elle pleure la pauvre. Ah bravo, vous l'avez fait pleurer la petite. Vous êtes content? Ah vous faites vraiment pas attention hein. Va falloir la consoler maintenant.
Tu peux y aller si tu veux.
Non là, je vais le faire. Non, je vais y aller. Ouais. Je m'y connais bien moi en consolage. Allez. Viens là, ma petite fille, ce sera notre petit secret. Bumblebee confie le cube à Sam et c'est parti pour la bagarre.
La bagarre?
Avec Gilo qui arrive en mode che truc de ouf.
C'est quoi le mode che truc de ouf?
Alors le mode che truc de ouf, c'est un mode où t'improvises, voilà, tu fais plus ou moins n'importe quoi. C'est le mode dans lequel je suis constamment. Et là, attention, plan de ouf au ralenti, ouais ça! J'adore ce plan! Alors, c'est un plan de ouf qui ne sert absolument à rien à part montrer encore une fois une jolie fille. Et là, je viens juste de résumer tout le cinéma de Michael Bay. Mais alors, par contre, putain, j'en ai parlé 1000 fois. Je n'en peux plus, les gars. Je n'en peux plus, je laisse tomber. Vous savez de quoi je veux parler? Évidemment que vous savez.
La VF!
Attends, attends. Est-ce que Transformers, c'est pas l'un des films les plus bourrins de l'histoire du cinéma? Ça explose de partout, il y a l'armée, il y a des camions, il y a des tanks, putain, mais il faut des répliques de ouf, bordel! Il faut du charisme dans le phrasé. Les Transformers, ils ont du style, alors il faut les faire parler avec style. Faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Faites-nous un truc vraiment classe et bien vénère.
Viens là, Decepticon à la noire.
Mais non, mais reviens!
Mais non, ça ira pas! Viens là, Decepticons à la noix. Sainte Marie, mère de Dieu, mais qui parle comme ça?
Mais personne dit ça.
Julien Kramer, c'est le directeur artistique de la VF. Et accessoirement aussi la voix de Megatron. Je ne sais pas si c'est lui qui choisit les dialogues, mais si c'est le cas, le peuple demande des excuses officielles. Et si c'est pas lui, eh ben il nous doit quand même des excuses pour avoir laissé passer ça. Et je demande 10 millions d'euros de préjudice.
20 millions.
Gilles, ma poule, toi qui as bossé sur le film. Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé.
Eh ben, ce qui s'est passé, tiens, en quelques mots, j'en sais foutre rien. J'étais pas là. Moi, je suis arrivé que sur le 2. Pour te schématiser la façon dont se déroule l'adaptation française d'un film cinéma, au préalable, il y a ce qu'on appelle une vérif. Une vérification. Lors de cette journée de vérif, tu as un auteur qui a adapté le texte anglais en français et qui le présente au directeur artistique et au client. Important le client. Donc, sur ce film, tout ce que tu regrettes dans cette VF, notamment le fait que les Decepticons parlent un peu comme les Brigades du Tigre, peut tenir en quelques raisons diverses et variées. Julien Kramer, peut-être, a trouvé ça très sympa de dire espèce de robot à la noix. Peut-être aussi que l'auteur était d'une autre génération et qu'il aimait pas trop utiliser un langage grossier. Ou alors, peut-être que le client a décidé que des figurines à 300 balles représentant des Decepticons qui disent des grossièretés, c'était pas très vendeur. Va savoir, il peut y avoir mille choses. Allez, la bise pépette.
La bise ma poule, merci beaucoup pour ton intervention. N'empêche, je dis ça, je dis rien, hein. Mais il y a juste Iron Hyde qui vient de parler dans ma vidéo. Entre autres, hein, Gilles, j'en parle régulièrement parce qu'il a un CV long comme le bras. Hein. Et là, ce que je kiffe, c'est que au départ, Transformers, c'est une guerre entre deux clans, les Autobots et les Decepticons. Donc il faut les voir se bastonner entre eux, tu vois. Et là, on a peut-être le meilleur plan du film qui nous montre cette guerre des robots. Et ses plans sont encore une fois géniaux. Et voilà, comme depuis le début du film, on passe sans arrêt d'un truc pourri à un truc mortel. C'est comme quand tu passes de la chaîne de PH à la mienne. Megatron arrive et défonce Jazz. Là, c'est ouf, on voit la différence de taille. Megatron est 4 fois plus grand que Jazz. Et Jazz peut, c'est terminé. Eh oui, mais voilà, mais il faut aussi qu'il y ait des gentils qui meurent, hein, sinon c'est pas marrant. Bon, après, c'est des robots, hein, c'est pas des humains, donc c'est pas grave. Et puis de toute façon, c'est un film. Hein. Optimus arrive et le duel avec Megatron peut commencer. Un bon petit duel bien sympathique qui va probablement causer des centaines de morts. Sam se casse la gueule avec le cube, ce qui libère une énergie qui transforme toutes les machines en robots fous, et notamment dans une bagnole avec deux top modèles de ouf. En fait, ce qui est marrant, c'est que dans les films de Michael Bay, il y a aucune meuf en dessous de 18 sur 20. Ah, je mets des notes, ouais, bien sûr. Ouais. Ah bah, c'est ça qui motive aussi à faire monter la moyenne. Hein. Et sinon, vous avez entendu la réplique ?
Ce neuneu a rayé ma voiture.
Ce neuneu a rayé ma voiture. Bon, Megatron prend le dessus, il défonce grave Optimus. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, Optimus Prime, il est nul. Et c'est là que Sam va faire un move de ouf. Il va se placer sous Megatron et PEUH, il le défonce et close Park. Tu sais absolument pas comment il savait que le cube pouvait faire ça, personne lui a jamais dit. Il a trouvé ça tout seul, parce que c'est l'élu. Et Optimus qui lui dit...
Sam... Tu m'as sauvé la vie.
Oh putain, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Je crois que je vais chialer. Mais c'est vachement émouvant.
Attends, tu vas quand même pas chialer, non ?
Non, non, mais je déconne. C'est bon. Si vous pensez que je vais pleurer pour ça, vous avez raison. Et là, Bumblebee, il se décide enfin à l'ouvrir.
Demande autorisation de parler.
Ah bah tu parles, toi, maintenant. Qu'est-ce que tu veux ? Non, c'est parce qu'il faut vraiment que j'aille au water.
Ah ouais, bah, il y a le poulet échappement bouché. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Il y a eu 400 morts, mais tout le monde s'en fout. On balourde les restes du robot à la flotte. La pollution, bah les couilles. Sam se sert enfin Michaela sur le capot de Bumblebee. Optimus Prime dit qu'ils vont rester sur Terre, mais cachés.
Nous vivons parmi ses habitants. Caché au nez et à la barbe de tous.
Oui, tout à fait, oui. C'est sûr que vous étiez très bien caché, là. Personne vous a remarqué. Alors, des vrais ninjas. Et Optimus qui envoie un message à tous les autres Autobots de la galaxie pour leur dire qu'ils peuvent tous débarquer sur Terre pour bien venir foutre la merde. En fait, Optimus Prime, tu sais, c'est le gars en soirée que t'as pas invité, tu vois. Il vient, il fout le bordel partout, puis après il ramène ses potes. Le boulet, quoi. Le mec, il fait chier tout le monde. Et il va vite falloir s'en débarrasser de cela. Hein. J'espère qu'ils feront pas d'autres films avec eux. Et fin. Et voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le film Transformers. Un grand film d'amour. Tendre. C'est pas le meilleur de Michael Bay, c'est pas le pire non plus. La saga Transformers est plutôt cool à regarder, mais on va dire une fois chaque film, voilà, pas beaucoup plus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça fait plaisir, j'espère que ce format analyse de film vous plaît toujours. Je vais pas vous dire que je commence un peu à saturer, parce que... tout se passe très bien. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que tant que vous kiffez, bah, je continue. En tout cas, c'est parti, on lance officiellement la période des fêtes, avec le rythme de fin d'année d'une vidéo par semaine. Normalement, c'est comme tous les dimanches, mais il se peut aussi que des fois ça arrive le lundi ou le mardi si j'ai pas assez de temps pour la finir. Et puis là, je vous l'annonce au passage, mais là, c'est plus moi qui monte mes vidéos. Là, c'est terminé. J'ai absolument plus le temps d'écrire, tourner et monter les vidéos en une semaine. Là, je vais avoir deux monteurs qui vont bosser pour moi qui vont alterner une vidéo sur deux. Et ouais, ça bosse chez 12 Parsec. Allez, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. C'était Yann Solo sur 12 Parsec. Ciao.